comme d'habitude, je dois commencer avec une petite touche d'émotion en disant que je suis venu dans cette église avec ma famille, avec mes parents, mes frères et sœurs, de l'âge de, je ne sais pas, j'avais 8 ans, je pense, quand je suis arrivé. Au début, on était à la tour, et puis après, on est venu ici à la chapelle. Et voilà, c'est des années et des années. Puis après, vers 15 ans, j'ai fait une petite pause au niveau ecclésial. Et puis, je suis de nouveau là. Voilà. Bon, sans tarder sur les détails. Je m'appelle Pascal Grosjean, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis, je travaille à la Ligue pour la lecture de la Bible depuis 5 ans. J'habite à la Sarra. Je suis marié. On a 3 filles adolescentes. C'est un vrai bonheur. Et je ne suis pas du tout ironique quand je le dis. C'est un vrai bonheur. Et voilà. En fait, je dispose de 20 minutes pour vous dire que d'être fort, voilà, ça va être facile, d'être fort face à la tentation. Alors, déjà le titre, je l'ai trouvé un petit peu difficile parce que c'est quand même un message étonnant d'être fort face à la tentation. En réfléchissant un petit peu, je me suis dit, la tentation ne s'intéresse pas à nos forces, la tentation s'intéresse à nos faiblesses. La tentation profite de nos faiblesses. Si elle ne s'adresse pas à nos faiblesses, elle a peu de chances de nous tenter. Donc c'est raté. Si elle s'adresse à moi, la tentation, quand je dis la tentation, vous mettez tous ce que vous voulez derrière ce mot, parce que vous savez mieux que moi à quoi ça peut correspondre dans vos vies. On est d'accord? Donc moi, je ne vais pas faire un exposé de tout ce qui peut être la tentation ou les tentations qui nous touchent. Mais lorsqu'elle s'adresse à moi, si c'est dans un domaine où je suis fort, où je suis bien dans mes baskets, où je suis satisfait, voire reconnaissant, en paix avec Dieu, en paix avec moi-même, heureux de ce que je vis, alors moi je regarde la tentation avec dédain et je lui dis « Oh, tentation, tu rigoles ! Je ne suis même pas tenté. Je résiste et c'est facile. J'ai pas besoin de toi. J'ai même pas envie de ce que tu me proposes. Passe ton chemin. » Ou alors la tentation la tentation s'adresse à moi et je la vois même pas. C'est comme le chocolat, vous savez, moi le matin, des petits œufs au chocolat, c'est pas ce qui me tente. Mais il y aurait eu une machine à café avec une petite odeur de café, il y aurait eu un appel irrésistible et peut-être que ça, en rejoignant une de mes addictions, on va aller trop loin, mais en tout cas quelque chose que j'aime bien, j'aurais été plus sensible. La tentation, la vraie, celle qui me touche, elle m'attaque, elle me harcèle, elle me cherche, elle se glisse dans ma vie, elle se déguise même pour mieux m'attraper. Ce que je sais, c'est que la tentation profite de mes faiblesses pour m'atteindre. La tentation, elle nous attaque là où nous avons nos fragilités récurrentes, pénible à supporter. Elle s'adresse, elle se glisse dans nos failles douloureuses, béantes parfois. Elle nous touche dans nos besoins les plus profonds, dans nos manques, dans nos attentes, nos aspirations. Vous savez, ces parties de nous-mêmes qui crient, les vides, les trous intérieurs. On est plus ou moins sensible à ça, mais personne n'est lisse, complet, parfait, fini, résistant dans toute sa personne et dans tous les domaines. C'est notre humanité qui veut ça. Donc elle profite de ces faiblesses-là. Mais aussi, et puis ce qui est plus surprenant, réfléchissant un petit peu, je me suis dit, elle a une autre combine pour nous atteindre, pour nous choper, pour nous attraper. Elle vient nous rejoindre, la tentation, dans nos rêves. Dans nos rêves, dans nos espoirs, nos idéaux, parfois nos idées très hauts, trop hauts, dans nos illusions, même quotidiennes. Alors aujourd'hui, dans nos résolutions déterminées et répétitive. Et puis elle nous attend aussi la tentation là où sont nos objectifs. Là où on a des désirs, on a des espérances. Elle se glisse comme ça dans cet espace qui existe entre ce que je suis, ma réalité, ce que je suis vraiment, et puis ce que j'aimerais être. Soit que je suis un peu cassé, un peu fragile dans une partie de ma vie, et puis que j'aimerais tellement juste aller bien, être juste assez bien pour vivre, pour supporter, pour ne pas être handicapé. Quand il y a cette, vous voyez, cette distance entre mon état, ma fragilité, ma faiblesse, ma souffrance, et puis ce que j'estime être normal pour pouvoir vivre bien. Alors dans cet espace, il y a la tentation qui peut venir pour glisser un certain nombre de choses. Et puis il y a un autre espace où elle trouve sa place, c'est quand je suis normal, bien, voilà, j'arrive à vivre, ça fonctionne, c'est correct, je suis une personne banale, normale, qui assume son quotidien, mais en réalité, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Entre ce que je suis et ce que j'aimerais être, ce que j'aimerais tellement devenir, ou voir parfois ce que j'aimerais tellement avoir, parce qu'il n'y a pas que l'être qui est touché, il y a aussi l'avoir qui est touché. Vous voyez, ce serait normal que j'aie ceci, mais je ne l'ai pas. Alors je vais laisser une place ici pour que la tentation puisse me glisser quelques propositions. Ça rejoint un petit peu l'histoire de la grenouille et du bœuf. Hein, la grenouille qui voulait être un bœuf. Vous connaissez cette histoire? Vous connaissez? Bon, ça c'est pour les... C'est qui a écrit ça? C'est La Fontaine qui a raconté cette histoire. Alors, La Fontaine, c'est magnifique, il faut le lire, c'est vraiment intéressant, c'est plein de bonnes leçons de vie. Voilà. Ou alors peut-être pour d'autres, vous savez, c'est le singe qui voulait être un lion dans Les Fables de la Jungle. Est-ce que vous connaissez le singe qui voulait être un lion? Vous ne connaissez pas? Après, il trouve une vieille peau de lion, il la met sur lui, puis il joue au lion. Bon, vous ne connaissez pas. Peut-être vous connaissez la chanson. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu, j'aimerais tellement, si seulement je pouvais. Alors quand je dis ça, on pourrait avoir le côté un peu pervers de cette manière d'aborder les choses, c'est qu'on pourrait dire, mais Pascal, il est en train de nous dire quoi? Il nous dit, il faut rester dans notre état. Si on est malade, on reste malade. Si on est blessé, on reste blessé. On végète. Il ne faut pas avoir d'aspiration, il ne faut pas avoir de projet, il ne faut pas désirer grandir, s'améliorer. Alors ce n'est pas du tout ça que j'aimerais dire. J'aimerais juste rendre sensible au fait que dans cet espace entre ce que je suis et ce que je désire, il y a une place où la tentation va venir régulièrement, où les tentations vont venir régulièrement s'adresser à moi pour me proposer des business, des deals. Et j'ai un truc pour toi, si tu veux aller là, j'ai quelque chose qui correspond parfaitement. Donc ce sont des bonnes choses que de progresser, de guérir, d'apprendre, de se développer, de consolider une fragilité, c'est magnifique de réparer une faille, de combler un besoin, c'est des belles choses. Étayer un rêve, le concrétiser, transformer un désir, une illusion, c'est des belles choses, oui. Mais la question c'est pourquoi et comment? C'est là que ça va se passer. Par quels moyens je vais y arriver? Où est-ce que je vais trouver les ressources? Parce que la tentation, elle nous propose des solutions, des vraies solutions. Elle propose une certaine manière de combler cet espace entre ma situation actuelle et puis ce que j'aimerais, un possible devenir. Vous savez, ça rejoint cette phrase, il y a des gens qui disent « Je ferai n'importe quoi pour ». Vous avez déjà entendu ça ?« Je donnerai n'importe quoi pour ». Et le n'importe quoi, c'est quand même un mot qui est assez ouvert, on va dire. Hein. N'importe quoi, c'est tout et n'importe quoi. Donc ça veut dire que je perdrai mon évaluation, mon jugement, pour atteindre l'objectif, le but que je me suis fixé. N'importe quoi, c'est une assez bonne piste pour la tentation aussi. Alors, je vous propose de prendre un texte biblique, c'était l'introduction, je vous propose de prendre un texte biblique de base qu'on trouve dans la Genèse. Le contexte de ce texte, c'est que les êtres humains, un peu comme nous, les êtres humains vivent dans un espace qui est approprié, un lieu plaisant, magnifique. Ils sont dans l'Éden, dans le jardin que Dieu leur a offert. Ils ont un lieu, une place, ils ont une tâche, ils ont un statut, une position. Ils sont plusieurs, en tout cas deux, en relation l'un avec l'autre. Donc ils sont horizontalement en relation. Et puis ils sont en relation avec Dieu aussi, qui est présent. L'homme et la femme sont au même niveau. Ils viennent de la terre, ils vivent sur la terre, ils s'occupent de la terre et de ce qu'elle produit. C'est le niveau de l'homme, c'est le niveau de l'humanité. C'est là qu'on a été créé, c'est de là qu'on vient. Et puis, ils savent très bien qu'il y a autre chose, parce qu'ils constatent que il y en a un qui plane, et eux, ils ne planent pas, ils marchent. Donc, ils sont conscients qu'il y a autre chose que leur état, qu'il y a un autre état plus haut, des choses à quoi ils n'ont pas accès. Ça ne leur appartient pas, ça n'est pas leur place. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont été créés ou qu'ils ont été prévus. C'est le niveau de Dieu. Ils savent qui est Dieu et ils savent aussi une chose, c'est qu'eux ne sont pas Dieu. Et ils savent qu'ils ont chacun leur place, chacun leur rôle. Et puis dans cet espace entre Dieu et l'homme, vient se glisser la tentation. C'est pas vrai. Tentation. Alors je vous lis le texte et puis je le commente un peu en direct. Chapitre 3 de la Genèse. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, est-ce que Dieu a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin? Le serpent, c'est le commentaire maintenant, il ment sur l'état et sur la situation de l'homme. Il insinue et il essaye de provoquer l'insatisfaction, la frustration avec cette première remarque. Est-ce que vraiment vous avez le droit de manger aucun fruit du jardin? La femme qui est droite et juste et qui rétablit la vérité en disant « Pas du tout, pas du tout. Nous pouvons manger les fruits du jardin, nous pouvons les manger, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Ne mangez pas ces fruits et ne touchez pas, sinon vous mourrez. Ça n'est pas pour vous. Ça n'est pas le bon moyen, ça va vous faire du mal, ça va vous casser. » Le serpent répond à la femme, « Mais pas du tout, non, vous ne mourrez pas. » Donc il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de risque. Vous pouvez y aller si ça vous fait envie. Dieu, mais... Et puis après il insinue, « Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Est-ce que c'est positif d'avoir les yeux qui s'ouvrent? Oui, c'est bien. D'avoir les yeux ouverts, c'est plus facile. Essayez de fermer les yeux, marcher un peu dans la salle, vous verrez que c'est pratique d'avoir les yeux ouverts. Vos yeux s'ouvriront, c'est déjà bien, mais vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien et mal. Et cette fois, c'est le serpent qui conteste la parole de Dieu. Il dit, mais non, tu risques rien à dépasser la limite, la limite. La limite. Vous risquez rien à dépasser la limite. Par contre, si vous faites ça, vous pouvez gagner beaucoup, monter d'un cran, combler le vide entre la situation de l'homme que vous êtes et la situation de Dieu qui plane au-dessus de vous. Vous pouvez devenir plus, mieux, mieux. Hein, c'est ça. Ben, la tentation, c'est quand même ça. Vous pouvez devenir plus, mieux, mieux. Vous pouvez avoir plus, mieux, mieux. C'est pas compliqué. Il vous suffit de croquer la pomme. Voilà. Il y aura quelques unes d'ailleurs un peu derrière. On verra qui cède à la tentation à la fin de, du culte. Alors, la femme se dit, les fruits de cet arbre, ils sont beaux, ils doivent être bons, ils donnent envie de manger pour en savoir, pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit, elle le mange, elle le donne à son mari qui est avec elle, donc qui a tout vu, tout entendu, et puis, et qui n'a rien dit, et puis elle en donne à son mari, il en mange aussi de bon cœur, il croque le fruit. Et leurs yeux s'ouvrent. Et c'est vrai, c'est ce qu'avait dit le tentateur. Leurs yeux s'ouvrent. Mais sur quoi? La femme, elle s'est dit qu'elle n'avait rien à perdre, même elle s'est dit qu'elle avait tout à gagner. Et c'est que du plus mieux. Pourquoi je ne le prendrais pas? Elle a envie d'essayer, et puis ils cèdent à la tentation ensemble, sans réfléchir à la direction où ça va les amener, de quel sens ils vont aller, ça va être quoi les conséquences de quitter le lieu où je suis, où Dieu m'a mis, où je vis, pour aller là où le tentateur m'appelle. Donc il n'y a pas cette réflexion, il y a juste le plus, mieux, mieux. Ah ben alors j'y vais. Donc c'est vrai qu'ils vont gagner quelque chose, mais ils ne seront plus eux-mêmes, ils vont perdre. Ils vont perdre leur place, ils vont perdre leur rôle, ils vont perdre ce pour quoi ils sont faits. Ils vont être à côté de la plaque. C'est comme si dans une montre, on prend une pièce, on la met à un autre endroit. Ils ne seront plus dans le lieu de l'harmonie. Ils seront dans la, je ne sais pas, ça se dit la disharmonie, ça la...
Non, ça ne se dit pas.
Ça se dit, ça professeur dans la salle. Le piège de la tentation, c'est de devenir autre chose que ce qu'on est. C'est de ne pas respecter ce pourquoi on a été créé. Être entraîné sur un chemin où on se perd, on ouvre une porte, on fait des pas en avant et on ne sait plus où on est. Judas, mais qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que je suis devenu? Judas qui a trahi Jésus pour quelques sous, mais qu'est-ce que je suis devenu? Et puis pour lui, ben c'est comme pour la plupart d'entre nous, une fois qu'on a ouvert une porte ou qu'on a tracé un chemin différent, ben on a une tendance, vous savez, on dit « je vais aller là ». Et on est entraîné ailleurs. On est comme aspiré par les chemins, on est comme aspiré par les chemins qui se sont ouverts ou qu'on a ouverts en les pratiquant. Et c'est beaucoup plus difficile après, une fois que la tentation a réussi à nous attirer, à ouvrir une porte, une voie, eh ben, c'est beaucoup plus difficile. Et il faut avoir cette conscience de se dire, aïe, je connais cette porte, je connais ce chemin et je sais où ça mène. On a un autre texte biblique qui se trouve dans le Nouveau Testament que je vais vous lire, Matthieu chapitre 3, ça part de Jésus. Dès que Jésus est baptisé, il sort de l'eau et au même moment, le ciel s'ouvre. Jésus voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur lui. Et une voix vient du ciel et lui dit, « Celui-ci est mon Fils que j'aime. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. » En lui, j'ai mis toute mon affection, disent d'autres termes. Donc on a un texte où Jésus, le Père du ciel, donne une place et une identité à Jésus. Il affirme qui il est. Alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. On comprend. Non ? On essaie de se mettre dans la situation. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et il lui dit, mais 40 jours sans manger. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal, le tentateur, s'approche de Jésus et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Jésus lui répond, dans les livres saints, on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mais Le tentateur a un certain bon sens. Ah, quand même. Si on réfléchit à la situation, je pense qu'il y a un réel besoin, même une certaine faiblesse de la part de Jésus, après 40 jours de jeûne dans son humanité. Il est comme nous, un homme, et il a faim. Et il souffre, on peut dire, il souffre de la faim. Et à ce moment-là, le tentateur va vers lui pour lui dire « Tu pourrais manger du pain. » C'est pas bête. C'est pas inamical comme proposition. C'est même plutôt sympathique. Puis comme tu es le fils de Dieu, tu peux changer une pierre en pain. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Comble ton besoin. On peut aller plus loin. Mais pourquoi tu restes comme ça pendant 40 jours sans manger alors que tu as le pouvoir et la capacité de te nourrir? Donc il n'y a rien de mal à ça. En tout cas, si on réfléchit comme ça, on ne voit pas le mal. Pourtant, Jésus refuse. Jésus refuse d'acquérir un bien, on va dire, légitime, simple, plutôt connoté positivement. Le pain, c'est bien. Le pain, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Il ne lui a pas dit, tiens, fais-toi un shoot d'héroïne. Il lui a dit, prends du pain. Mais qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi Jésus refuse? Parce que le tentateur touche directement à son identité, à qui il est, à ce qu'il fait, et puis à sa place, à la place qu'il a, à la place qu'il a par rapport au Père, devant le Père. Et le Père, il vient déclarer, c'est mon fils bien-aimé, je pourrais rajouter, de qui je prends soin, de qui je m'occupe. Et c'est là que l'ennemi l'attaque. Quelque part, il pourrait lui dire, ton père dit qu'il t'aime et il te laisse crever de faim dans le désert pendant 40 jours. Et tu arrives à croire qu'il t'aime encore. Et Jésus aurait pu répondre, oui, oui, je suis le fils de Dieu, regarde, toc. Et voilà, une pomme. Mais il ne le fait pas. Jésus dit, je sais, enfin il le dit, Jésus, je sais que je suis le Fils bien-aimé de Dieu. Et parce que je me soumets à sa parole, je reste à ma place de fils et je compte sur lui. Parce que je suis son fils, parce que c'est ma place, parce que c'est lui qui m'a amené, parce que je lui fais confiance. Je continue à compter sur lui. Je ne vais pas chercher d'autres moyens, même s'ils sont à ma portée. Et je ne vais pas écouter ta parole et ta proposition pour acquérir du pain, de la nourriture. Même si je souffre, et si on entend ces paroles maintenant, nous connaissons toute l'histoire de Jésus, même si je souffre, je veux faire ta volonté. Et à Gethsémané, c'est la même chose. Même si je souffre, je veux faire ta volonté parce que c'est là qu'est ma place et c'est ça que j'ai décidé. Moi, Jésus, ton fils, je veux rester dans cette place. Alors l'esprit du mal amène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, dans les livres saints, on lit, Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Et Jésus répond, dans les livres saints, on lit aussi, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. Ça, on pourrait faire un message sur l'utilisation des textes bibliques, mais on ne le fera pas, parce que les deux utilisent des textes bibliques. Donc la seconde fois, Satan attaque Jésus sur son identité, sur sa filiation. Il lui dit, si tu es vraiment celui que tu crois, teste ton père. Obtiens une preuve. J'ai besoin d'une preuve. Et puis Jésus réagit, je suis bien avec ce que je suis, mais j'ai rien à prouver. J'ai pas envie de dompter mon père, j'ai pas envie de jouer avec lui. J'ai envie d'avoir une vraie relation de confiance. J'ai pas envie de provoquer mon père, j'ai pas envie de provoquer Dieu. L'esprit du mal amène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur richesse et il lui dit, « Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. » C'est le prince de ce monde qui dit ça. Il y a un texte dans le Nouveau Testament qui dit, « C'est le prince de ce monde qui dit, « Je vais te donner tout cela. » Et Jésus lui répond, « Va-t'en, Satan. » En effet, dans les livres saints, on lit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer et c'est lui seul que tu dois servir. » Là, Satan s'attaque à ses projets d'avenir. En fait, à ce moment-là, si Jésus avait une conscience déjà de la mission qui était la sienne, il pouvait choisir entre la croix et la gloire. Entre la croix et le pouvoir. Quand même, projet d'avenir. Pourquoi restes-tu soumis à ton père qui te laisse crever de faim dans le désert, alors que moi je t'offre des royaumes, le pouvoir, la richesse, la puissance? Et Jésus, non, répond, non, je suis bien à ma place, je suis soumis à mon père et c'est là que je veux être. Je lui fais confiance, c'est ma place. Je lui fais aussi confiance pour mon avenir. Je lui fais aussi confiance pour mes biens matériels, pour ce dont j'ai besoin, mais plus que ça, pour mon émancipation, pour mes projets. Je ne prendrai pas une voie détournée pour recevoir la gloire et la puissance d'un autre que toi. Donc on a cette détermination face aux propositions très concrètes du tentateur. Alors l'esprit du mal laisse Jésus et des anges s'approchent de Jésus et lui donnent à manger. Alors il n'y a pas de détails, mais ça a l'air quand même bien. En lisant ces deux textes, j'ai combien de temps? J'ai passé de 5 ou 10 minutes. Oui. Ça va? 5. J'ai encore 5. En lisant ces deux textes, on se rend compte que la tentation touche directement l'identité, le rôle et la place de la personne. Dans le jardin d'Éden, le serpent dit, tu pourrais devenir quelqu'un d'autre, plus, mieux, mieux que ce que tu es. Tu pourrais devenir Dieu. Puis elle le croit. Ah ouais, c'est cool. Et lui avec, il ne faut pas dissocier. Et puis, vous savez, ce que j'aime bien avec cette image de l'arbre, c'est pas une pomme, c'est de l'arbre, c'est ce petit côté magique. C'est un peu comme la publicité, vous savez, avec le produit miracle, vous deviendrez Dieu. Vous voyez, il y a un petit côté business, là, comme si une pomme ou, pouvait tout changer. C'est la perte, dans cette situation, c'est la perte du discernement. La femme, elle commence bien, elle rappelle la parole de Dieu, qu'après, avec son mari, là, elle se laisse entraîner. Elle perd la voix, le discernement, les paroles que Dieu leur avait données. Vous êtes prévus pour être dans le jardin, pour vous développer, là, pour vous occuper de tout ce qui est ici, qui est pour vous. Vous avez des projets à faire. Ce n'était pas juste toute sa vie faire du jardinage. C'était construire le monde. C'est quand même un projet magnifique. Pas une toute petite chose. Tout était ouvert, sauf une petite chose, sauf un détail, sauf un point. Et ils ont complètement oublié tout ce qu'ils avaient pour s'attacher à la petite chose qu'ils n'avaient pas et qui n'était pas pour eux. Puis dans la seconde situation, on a Jésus vraiment, réellement fragilisé, qui garde sa ligne, qui garde sa position. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils bien-aimé de Dieu, en qui il a mis toute son affection. Il a son regard sur moi. Il a sa main posée sur moi. Oui, je souffre, mais je sais qu'il est fidèle. Et c'est là que je veux être. C'est ma voie, ma ligne. Je vais marcher sur ce chemin. Ces deux textes, ces exemples, ça rejoint notre vie quotidienne. Et pour être fort face à la tentation qui nous attaque sur nos faiblesses, pour être fort, il est important, il est primordial d'apprendre à discerner entre, d'une part, une offre saine d'évolution, de progression, de guérison, de maturité, toutes ces bonnes choses dans lesquelles on peut grandir, mais quelque chose, voilà, j'ai un objectif devant moi et je vais travailler dans cette voie vers cet objectif avec les moyens qui correspondent. Ça veut dire qu'il y a une attention qui est donnée à la manière de faire les choses. Oui, je veux être saint, je veux rester saint. Oui, je veux marcher avec Dieu. Oui, je veux continuer à l'aimer. Oui, je veux compter sur lui. C'est à lui que je m'attache. C'est là que j'ai choisi d'aller. Et puis, d'autres propositions qui sont toujours là dans nos vies. Elles peuvent venir dans tous les domaines. Le domaine de l'amour, le domaine de la sexualité, le domaine financier, le domaine de la popularité, enfin toutes ces choses qui quand même nous touchent un petit peu. Peut-être dans le domaine de la guérison, si tu fais comme ci, comme ci, comme ça, tac, tu seras guéri. Si tu fais, vous comprenez ? Toutes ces propositions qui viennent sans arrêt, elles continueront à venir sans arrêt nous proposer des possibilités pour qu'on puisse atteindre une certaine réussite. Et en fait, c'est ce discernement qui va faire que, je pourrais dire, ça c'est une tentation qui vient à moi et qui va m'attirer au dehors du chemin que j'ai choisi. Ou bien, ça c'est une proposition qui vient à moi et qui va me conduire sur ce chemin que j'ai choisi. Et c'est ça, la possibilité d'être fort, c'est cette conviction que ce qui viendra pourrir ma vie, me sortir de moi-même, me faire quitter le projet que Dieu a pour moi, ou cette proposition qui vient vers moi et qui n'est pas une tentation, qui est une offre bénéfique de bénédiction, va me permettre d'avancer sur mon chemin. Et si c'est la seule chose qu'on peut retenir ce matin, je pense que c'est vraiment important. Dire oui, j'ai une proposition qui vient, je fais un pas en arrière et je réfléchis. Est-ce que ça va m'approcher de moi-même et de Dieu, ou de Dieu et de ce que Dieu veut pour moi, ou est-ce que ça va m'éloigner de ce que Dieu veut pour moi et de Dieu lui-même. C'est pas maintenant qu'il y a les 2 minutes. Et après, je dois encore dire quelque chose, à moins qu'on me dise que ça suffit. Je peux bien me taire.
Alors, c'est quoi la question?
Mais il paraît qu'il y a 2 minutes, les deux minutes de Villard maintenant, non?
Tout à fait, il va y avoir les 2 minutes de Villard maintenant. Je pensais que tu finissais et qu'il y avait, tu vois. Ah, non, c'est parfait. Alors, toutes les personnes concernées par les 2 minutes de Villard, excellent. Et si on peut, la projection, projeter ce qu'il faut. Alors, je vous explique, pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez ou pas ? C'est impressionnant, hein? Aïe, aïe, aïe. Il y a Licia qui a 2 minutes maximum pour nous apporter un témoignage sur le thème. Si elle dépasse, en fait, dès que c'est fini, nos gorilles la traînent dehors, même si elle n'a pas fini de parler. Voilà. Alors, attention. Licia, merci beaucoup d'avoir relevé le défi. C'est parti.
Bon, alors voilà, j'ai grandi en France, donc j'ai fait ma scolarité là-bas. Et en fait, j'étais à un collège à 13 ans, donc j'étais dans un collège que j'aimais bien avec plein d'amis. Et on a eu une classe de sport, en fait, pendant 2 mois, et on faisait de la danse. Et puis, ils nous ont prévu, en fait, de faire une danse hindoue. Donc, ils ont invité une indienne qui est venue nous faire de la danse. Donc, j'ai dit, bah, pourquoi pas, pour découvrir notre culture, c'est cool. Mais du coup, après, ils nous ont dit, bon, ben, en fait, elle nous a dit, ça va être une danse, mais un peu comme une prière. Donc, il va falloir répéter Shiva après moi et faire ça un peu comme une prière. Donc, moi, j'étais là, mais ouf, c'est plus du sport, ça, c'est plus de la danse, c'est quelque chose un peu plus grand, là. Et puis, les gens ne réalisaient même pas, en fait. Et puis, moi et des copines musulmanes, on s'est dit, ben, on va pas faire ça, parce que c'est comme une prière, en fait. Et du coup, après, ben, oh là là, mais c'est stress, ce truc. Et du coup, après, moi, j'ai dit, moi, j'ai pas envie de le faire parce que, ben voilà, je suis chrétienne et puis j'ai pas envie de prier quelqu'un d'autre que Dieu, en fin de compte. Et puis les profs n'ont pas accepté, donc ben, j'ai dû parler à mes parents. J'ai dit, ben, faut parler au directeur pour faire quelque chose avec ça. Du coup, ben, on est allé auprès du directeur. Ils nous ont dit, ben, non, faut faire la danse, faut découvrir notre culture, faut être ouais, ouvert en fin de compte. Et puis du coup, ben, moi je dis, non, ben, j'accepte pas. Et puis après ça, ils ont dit, ben, soit tu fais ça ou soit tu changes de collège en fin de compte. Et puis le lendemain, ben, non, deux jours après, ben, du coup, ils m'ont dit, ben, voilà, tu changes de collège, on t'a déjà inscrite dans un autre collège. Et puis deux jours après, j'étais déjà en fait dans un autre collège. Et tout ça pour dire, en fin de compte, que ben, on peut être tenté dans plusieurs domaines. Moi, c'était vraiment la tentation de faire comme les autres et puis d'être accepté aussi et de se dire, ben, moi, je vais faire comme les autres et puis je vais pouvoir vraiment juste être accepté de mes amis. En fin de compte, ben, non, j'ai fait le choix de partir dans ce collège où je connaissais personne en plein milieu d'année. Puis c'était vraiment pas facile. Et puis, en fin de compte, ben, la tentation, des fois, il n'y a pas toujours quelque chose de bien à la fin. C'est vrai que j'ai résisté, mais c'était pas spécialement positif. Du coup, voilà. Et puis, je vais finir ici. C'est fini. Merci beaucoup, Justin.
Peut-être qu'on pourrait refaire tourner juste...
Deux minutes aussi, hein. C'est parti.
Oui, j'aimerais juste conclure en disant que, voilà, être fort face à la tentation, c'est décider de rester soi-même. C'est pas seulement être soumis à Dieu. Il ne faut pas oublier que j'ai choisi de vivre avec Dieu. C'est moi qui ai choisi de donner ma vie à Dieu. Et cette décision qui est la mienne, je vais la suivre. Parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'on fait que pour Dieu. Mais on fait pour Dieu, mais on fait aussi pour se respecter soi-même. Et c'est quelque chose de très important. Décider de rester soi-même sous le regard, sous la parole de Dieu, en comptant sur sa présence et son esprit. Être fort dans la tentation, c'est refuser de se perdre, c'est refuser de se morceler, de se déchirer entre des tensions et des moyens et des maîtres différents. C'est refuser de croire à des promesses de bonheur illusoire facile. Je te donnerai tout. Bon, on l'a chanté, mais c'était différent. Moi, le prince de ce monde, je te donnerai la gloire, etc. C'est jamais des cadeaux. C'est jamais des cadeaux. C'est du business. On dit bien vendre son âme au diable. Être fort par rapport à la tentation, c'est accepter nos faiblesses, nos manques. Cette distance entre ce que je suis et ce que j'aimerais être, elle a confié à Dieu, tout en sachant que c'est pas comme ça que ça va être résolu. Ça va prendre du temps, c'est un chemin. Il y a des domaines où ça va plus vite que d'autres, mais il y a des domaines où on reste, malgré tout, dans certaines faiblesses, dans certaines failles, dans certaines souffrances. Mais on n'y est pas tout seul, on y reste dans la présence de Dieu. Avec lui, on lui donne la main, il nous tient par la main. J'ai dit une bêtise. Être fort face à la tentation, c'est aussi découvrir qui est Dieu et qui il veut que je sois. Quels sont ses projets pour moi? Comment, Seigneur, tu veux que je conduise ma vie? Où est-ce que tu veux m'amener? Qu'est-ce que je peux faire avec ces dons qui sont à ta disposition? Et la dernière phrase... Il ne croyait pas que j'allais finir. Être fort face à la tentation, c'est aimer Dieu et me savoir aimer par lui. Parce que je suis, tu es son enfant bien-aimé. Amen.
Amen. Vous pouvez applaudir, hein, si vous voulez.